Chapitre 5. Conclusion. Qui n'a pas rencontré sur les boulevards de Paris, au détour d'une rue, ou sous les arcades du Palais Royal, enfin en quelque lieu du monde où le hasard veuille le présenter, un être, un homme ou femme, à l'aspect duquel mille pensées confuses naissent dans l'esprit. À son aspect, nous sommes subitement intéressés, ou par des traits, dont la conformation bizarre annonce une vie agitée, ou par l'ensemble curieux que présentent les gestes, l'air, la démarche et les vêtements, ou par quelques regards profonds, ou par d'autres je ne sais quoi, qui saisissent fortement et tout à coup, sans que nous nous expliquions bien précisément la cause de cette émotion. Puis, le lendemain, d'autres pensées, d'autres images parisiennes emportent ce rêve passager. Mais si nous rencontrons encore le même personnage, soit passant à heure fixe, comme un employé de mairie, qui appartient au mariage pendant 8 heures, soit errant dans les promenades, comme ces gens qui semblent être un mobilier acquis aux rues de Paris, et que l'on retrouve dans les lieux publics, aux premières représentations ou chez les restaurateurs, dont ils sont le plus bel ornement, alors cette créature s'inféode à votre souvenir, et y reste comme un premier volume de roman, dont la fin nous échappe. Nous sommes tentés d'interroger cet inconnu, et de lui dire « Qui êtes-vous? Pourquoi flânez-vous? De quelle droite avez-vous un col plissé? Une canne à pommes d'ivoire? Un gilet passé? Pourquoi ces lunettes bleues à double verre? Ou pourquoi conservez-vous la cravate des muscadins? Parmi ces créations errantes, les unes appartiennent à l'espèce des dieux termes. Elles ne disent rien à l'âme. Elles sont là, voilà tout. Pourquoi? Personne ne le sait. C'est de ces figures semblables à celles qui servent de type aux sculpteurs pour les 4 saisons, pour le commerce et l'abondance. Quelques autres, anciens avoués, vieux négociants, antiques généraux, s'en vont, marchent et paraissent toujours arrêtés. Semblables à des arbres, qui se trouvent à moitié déracinés au bord d'un fleuve, elles ne semblent jamais faire partie du torrent de Paris, ni de sa foule jeune et active. Il est impossible de savoir si l'on a oublié de les enterrer, ou si elles se sont échappées du cercueil. Elles sont arrivées à un état quasi fossile. Un de ces mêlemodes parisiens était venu se mêler, depuis quelques jours, parmi la population sage et recueillie qui, lorsque le ciel est bleu, meuble infailliblement l'espace enfermé entre la grille sud du Luxembourg et la grille nord de l'Observatoire. Espace sans genre, espace neutre dans Paris. En effet, là, Paris n'est plus, et là, Paris est encore. Ce lieu tient à la fois de la place, de la rue, du boulevard, de la fortification, du jardin, de l'avenue, de la route, de la province, de la capitale. Certes, il y a de tout cela, mais ce n'est rien de tout cela, c'est un désert. Autour de ce lieu sans nom, s'élèvent les enfants trouvés, la Bourbe, l'hôpital Cochin, les Capucins, l'hospice La Rochefoucauld, les Sourds-Muets, l'hôpital du Val-de-Grâce. Enfin, tous les vices et tous les malheurs de Paris ont là leur asile. Et, pour que rien ne manquât à cette enceinte philanthropique, la science y étudie les marées et les longitudes. Monsieur de Chateaubriand y a mis l'infirmerie Marie-Thérèse, et les carmélites y ont fondé un couvent. Les grandes situations de la vie sont représentées par les cloches qui sonnent incessamment dans ce désert. Et pour la mère qui accouche, et pour l'enfant qui naît, et pour le vice qui succombe, et pour l'ouvrier qui meurt, et pour la vierge qui prie, et pour le vieillard qui a froid, et pour le génie qui se trompe. Puis, à 2 pas, est le cimetière du Montparnasse, qui attire d'heure en heure les chétifs convois du faubourg Saint-Marceau. Cette esplanade, d'où l'on domine Paris, a été conquise par les joueurs de boules, vieilles figures grises, pleines de bonhomie, braves gens qui continuent nos ancêtres, et dont les physionomies ne peuvent être comparées qu'à celles de leur public, à la galerie mouvante qui les suit. L'homme devenu, depuis quelques jours, l'habitant de ce quartier désert, assistait assidûment aux parties de boules, et pouvait, certes, passer pour la créature la plus saillante de ces groupes, qui, s'il était permis d'assimiler les Parisiens aux différentes classes de la zoologie, appartiendrait au genre des mollusques. Ce nouveau venu marchait sympathiquement avec le cochonnet, petite boule qui sert de point de mire et constitue l'intérêt de la partie. Il s'appuyait contre un arbre quand le cochonnet s'arrêtait, puis, avec la même attention qu'un chien en prête aux gestes de son maître, il regardait les boules, volant dans l'air ou roulant à terre. Vous l'eussiez pris pour le génie fantastique du cochonnet. Il ne disait rien, et les joueurs de boules, les hommes les plus fanatiques qui se soient rencontrés, parmi les sectaires de quelque religion que ce soit, ne lui avait jamais demandé compte de ce silence obstiné. Seulement, quelques esprits forts le croyaient sourd et muet. Dans les occasions où il fallait déterminer les différentes distances qui se trouvaient entre les boules et le cochonnet, la canne de l'inconnu devenait la mesure infaillible. Les joueurs venaient alors la prendre dans les mains glacées de ce vieillard, sans la lui emprunter par un mot, sans même lui faire un signe d'amitié. Le prêt de sa canne était comme une servitude, à laquelle il avait négativement consenti. Quand il survenait une averse, il restait près du cochonnet, esclave des boules, gardien de la partie commencée. La pluie ne le surprenait pas plus que le beau temps, et il était, comme les joueurs, une espèce intermédiaire entre le Parisien qui a le moins d'intelligence et l'animal qui en a le plus. D'ailleurs, pâle et flétri, sans soin de lui-même, distrait, il venait souvent nu-tête, montrant ses cheveux blanchis et son crâne carré, jaune, dégarni, semblable aux genoux qui percent le pantalon d'un pauvre. Il était béant, sans idée dans le regard, sans appui précis dans la démarche. Il ne souriait jamais, ne levait jamais les yeux au ciel, et les tenait habituellement baissés vers la terre, et semblait toujours y chercher quelque chose. À 4 heures, une vieille femme venait le prendre, pour le ramener on ne sait où, en le traînant à la remorque par le bras, comme une jeune fille tire une chèvre capricieuse, qui veut brouter encore, quand il faut venir à l'étable. Ce vieillard était quelque chose d'horrible à voir. Dans l'après-midi, Jules, seul dans une calèche de voyage, lestement menée par la rue de l'Est, déboucha sur l'esplanade de l'observatoire, au moment où ce vieillard, appuyé sur un arbre, se laissait prendre sa canne, au milieu des vociférations de quelques joueurs pacifiquement irrités. Jules, croyant reconnaître cette figure, voulut s'arrêter, et sa voiture s'arrêta précisément. En effet, le postillon, serré par des charrettes, ne demanda point passage aux joueurs de boules insurgés. Il avait trop de respect pour les émeutes, le postillon. C'est lui, dit Jules en découvrant enfin, dans ce débris humain, Ferragus 23, chef des dévorants. Comme il l'aimait, ajouta-t-il après une pause. Marchez donc, postillon, cria-t-il. Paris, février 1833.